Notre émission Parole donnée reçoit aujourd'hui Joël Giraud, député maire de l'Argentière, l'ABC, vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Joël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Joël Giraud, vous êtes avec nous au téléphone puisque vous avez un agenda trop chargé qui ne vous permet pas de venir jusqu'à nous ici à Embrun.
Oui, l'agenda est très chargé. Et j'allais dire que la Nationale 94 est aussi trop chargée, ce qui fait deux raisons particulières.
Alors, nous allons évoquer aujourd'hui avec vous dans cette émission ce qui se passe sur l'argent, l'actualité de l'Argentière, l'ABC, du pays des écrins. Nous allons parler d'intercommunalité, de lignes à haute tension. Nous parlerons de la déviation de la Roche-de-Rave. Vous nous direz si vous avez du nouveau, si la 51 est définitivement enterrée. Et puis, le tunnel de Montgenèvre, où en est-on aujourd'hui? Mais d'abord, l'actualité à l'Assemblée nationale, récemment, ça a été le débat sur le mariage des homosexuels, oui ou non. Quelle est votre position à vous sur ce sujet? On a vu qu'Henriette Martinez avait fait son chemin et qu'elle, aujourd'hui, elle y était favorable.
Oui, ben je crois que c'est effectivement une idée qui a fait son chemin. Moi depuis très longtemps, j'avais d'ailleurs dans une boutade dit à l'Assemblée nationale un jour que les couples homosexuels avaient le droit de faire la même bêtise que les couples hétérosexuels. Parce que je crois que fondamentalement, bon, on est dans une société qui sur ce plan a évolué, et que au-delà de cette histoire du mariage homosexuel, c'est plutôt la question d'ailleurs qui se pose de manière très très cruciale de l'adoption des enfants qui est posée aujourd'hui. Alors bien évidemment oui, sur une proposition de loi que de toute façon j'avais signée, mais au-delà c'est la place de la différence dans la société qui est posée en France, j'allais dire de manière plus accrue que les autres. Et je crois que ceci est un pas, mais qu'il faut aussi qu'on arrête d'être extrêmement hypocrite là-dessus. En matière d'adoption des enfants notamment, puisque nous sommes dans une société où il faut savoir un président de conseil général a le droit de vie et de mort sur l'adoption. Et je crois que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est un système qui finalement est très discriminant, puisque d'un département à un autre, des couples peuvent ou ne peuvent pas adopter des enfants. Donc je crois que c'est là-dessus aussi et surtout qu'il va falloir que l'on se batte au-delà de la symbolique de ce mariage, où je suis content de voir qu'il y a un consensus dans les députés Alpins.
Sur la légalisation du cannabis, pour ou contre, Joël Giraud?
Moi, j'ai jamais été favorable, donc j'ai toujours eu des craintes, parce que j'ai beaucoup vu les exemples suisses, et les exemples suisses de légalisation ont provoqué quelques dérapages sur l'usage de stupéfiants qui étaient quand même très spectaculaires. Alors, je sais très bien que la légalisation est prônée souvent pour éviter de ghettoiser, on va dire, le marché illégal du cannabis. Bon, il n'en reste pas moins que je constate que l'engrenage qui est constaté après l'ascension de cannabis fait que de toute manière on a un problème de stupéfiants qui s'aggrave. Alors j'allais dire pour 10% de personnes pour qui ça ne poserait pas de problème, j'ai l'impression qu'il y a quand même une majorité de gens sur lesquels on est au début d'un engrenage en matière de stupéfiants. Alors, c'est vrai que je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis dans ce pays. Pour autant, la question demeure posée de cette espèce de marché parallèle que l'État devrait, entre guillemets, mieux contrôler. L'État doit-il ensuite se comporter comme un trafiquant de stupéfiants en autorisant un certain nombre de produits illicites et en faisant en sorte que leur consommation soit finalement sortie du marché clandestin? La question peut se poser en effet, mais je crois que le signal qui serait donné en matière de légalisation n'est sans doute pas un bon signal pour des problèmes de prévention de santé publique.
Joël Giraud, sortir du nucléaire pour ou contre, quel est votre sentiment, votre position à vous?
Je fais partie des gens qui, depuis très très longtemps, demandent un débat global sur l'énergie, parce que la question de sortir du nucléaire nous pose devant une responsabilité qui dans ce pays, n'est malheureusement jamais assumée. C'est tout simplement celle des choix énergétiques globaux de ce pays. Et c'est vrai que ce débat qui existe dans d'autres pays, pour d'autres pays également, il y a avoir référendaire, vous avez vu ce qui s'est passé récemment, très récemment même en Italie. Donc beaucoup de citoyens sur les dossiers-là ont la parole en Europe, les citoyens français ne l'ont jamais. Et c'est vrai qu'au lieu de poser les questions de manière binaire, le grand débat national sur l'énergie, qui se pourrait être sanctionné d'ailleurs par un vote, qu'il s'agisse d'un vote référendaire ou d'un vote parlementaire, moi je suis plus favorable au vote référendaire en la matière, nous permettrait de mieux appréhender nos choix en la matière. Alors, je fais partie de ces gens qui souhaitent que petit à petit nous sortions du nucléaire. Ça fait un moment que je le souhaite d'ailleurs. Bon, pour autant, nous ne devons pas faire l'économie de ce grand débat sur l'énergie, parce que si on pose simplement la question maintenant en termes binaires, et au regard de ce qui s'est passé notamment au Japon, évidemment, 80% des gens vont répondre oui, c'est complètement légitime. Pour autant, on n'aura pas posé la question plus globale des choix énergétiques de ce pays, qui est complètement à la ramasse par rapport à ses voisins d'Europe du Nord sur l'utilisation d'énergie alternative. Je crois que c'est d'autant plus important dans un département des Hautes-Alpes où nous pourrions faire une véritable économie, j'allais dire, d'un certain nombre d'énergies. C'est pas de l'économie d'énergie, mais de l'économie pure et dure. Je continue à rêver de filières industrielles où notre département pourrait trouver sa place. Est-il normal, pour citer un seul exemple, que l'on ne trouve pratiquement pas une seule chaudière bois fabriquée dans ce pays qu'est la France? Moi, ça fait partie des questions que je pose. J'aime beaucoup nos amis et voisins allemands ou autrichiens, mais c'est vrai qu'un jour, hormis une boîte d'ailleurs d'Auvergne, je me posais la question de savoir si un jour on pourrait avoir une notice d'instruction en français pas de part d'un constructeur français. Et je crois que c'est ça le vrai débat sur les choix nucléaires. C'est qu'en tout état de cause, on a foutu en l'air des filières entières et on a évité le développement d'autres. Regardez le photovoltaïque, qui est quand même quelque chose dans notre pays qui est dramatiquement peu pris en compte. Regardez les récents atermoiements du gouvernement sur cette filière photovoltaïque. On a commencé par lancer, dans le cadre du Grenelle, une grande politique énergétique pour reculer complètement, en foutant en l'air d'ailleurs l'économie de nombreux constructeurs français. Je crois que ce débat, on doit l'avoir au-delà du fait que je demeure persuadé qu'il faut sortir du nucléaire.
Alors, cette question rejoint la prochaine qui concerne le renouvellement des lignes haute tension dans le département. Un projet de nouvelle ligne très puissante de 125 000 volts qui inquiète beaucoup la population, surtout ceux qui habitent à proximité des futurs tracés. La population qui trouve qu'il y a un manque d'informations. Ça passe par votre commune, par l'Argentière-l'Abbessée, cette nouvelle ligne. Quel est votre sentiment sur le sujet? Est-ce que RTE a suffisamment concerté selon vous?
Écoutez, là où les communes ont voulu faire de la concertation, RTE a joué le jeu. Je le constate aussi. Donc, y a aussi une prise en compte par les élus locaux du débat qui doit avoir lieu avec la population. Nous avons fait un certain nombre de réunions ici sur l'Argentière pour expliquer quels étaient les choix, à quoi ils correspondaient. Très honnêtement, le fait que nous ayons une ligne qui reboucle entre guillemets sur des centrales du secteur alpin et qui ne traverse plus le col du Galibier, qui n'aille plus en Maurienne avec quand même des paysages complètement défigurés. Le fait que nous ayons une ligne qui nous prépare à l'avenir. Alors je sais bien qu'il y a un débat. On dit par exemple, j'ai entendu cela. qu'il fallait faire très gaffe parce qu'on augmentait les puissances possibles dans les Hautes-Alpes parce qu'il y avait besoin des canons à neige. Bon, c'est gentil, mais il n'y a pas que ça. Nous, on a fait un recensement exhaustif sur tout le secteur du bassin argentinois, des besoins en énergie du secteur, y compris d'ailleurs pour la création de centrales photovoltaïques, parce que, comme vous le savez, lorsqu'il y a des capacités de production énergétique de ce type-là, il faut bien les évacuer par un réseau. Et c'est un réseau qui est souvent un réseau de lignes à moyenne et à haute tension. Et il y a aussi une question qui est fondamentale et qui nous concerne au premier chef, c'est l'alimentation électrique future pour tout simplement se garder des capacités qui sont des capacités pour le percement ferroviaire sur le Mont-Genève et l'électrification de la ligne des Alpes, qui génère également des besoins énergétiques. Donc, je crois qu'il y a deux débats. Il y a un débat sur les besoins en énergie de notre secteur, où effectivement, si nous voulons développer un certain nombre de filières, nous avons un réseau qu'il faut consolider. Et la démarche de RTE en ce sens-là, je le crois, a été relativement explicite, parce que RTE aurait pu se contenter, entre nous soit dit, de faire, j'allais dire, les débats publics obligatoires et de ne pas faire de débats préalables. Ces débats préalables ont été faits. Partout, nous avons demandé des réunions qui étaient des réunions de bassin pour présenter le projet. RTE s'est plié à cela. Je crois que là-dessus, il y a eu peut-être un petit manque. J'ai pas remarqué qu'il y avait des initiatives particulières de l'intercommunalité en Bresse, par exemple. Il y a eu des initiatives de l'intercommunalité ici, des Écrins. Et s'agissant de ma propre commune, eh ben oui, j'ai négocié des choses, comme par exemple le fait que les actuelles lignes qui passent au-dessus d'un quartier où j'ai 800 habitants, quartier HLM, puissent être un petit peu dégagées en amont, de façon à ce que les gens n'aient pas une ligne au-dessus de la tête, justement. Donc je crois que le débat local qui doit avoir lieu est un débat qui a déjà eu lieu dans un certain nombre de territoires et qu'il faut dans la matière que élus locaux, population et RTE se rencontrent et travaillent de concert. Ce qui veut dire aussi, de temps en temps, dire aux RTE que les choix qu'ils ont faits en matière de ligne sont des choix qui n'auraient pas dû être faits à cet endroit-là, mais qui doivent être faits d'une autre manière. Et très honnêtement, le dialogue est en cours. Nous avons un point dur ici sur Saint-Martin-de-Carrière, compte tenu du fait que la ligne doit passer dans un secteur qui, à mon avis, n'est pas super adapté non plus. Le débat a lieu avec Saint-Martin-de-Carrière, les élus, la population. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord, mais le débat a lieu et je pense qu'on va arriver à un compromis très acceptable. Donc je crois très honnêtement qu'il faudrait que dans le secteur où cela le pose le plus de problèmes, c'est-à-dire en Brunet-Savinois, d'après ce que j'ai compris de ce tracé, les élus montent un peu plus au créneau avec la population et avec RTE pour trouver des compromis qui, à mon sens, sont toujours possibles.
Joël Giraud est avec nous au téléphone pour cette émission Parole donnée. Joël Giraud, sur l'intercommunalité, on assiste en ce moment à un déchirement autour du Guillestroy et du Queyras, partagé entre leur volonté ou leur souhait d'aller plutôt vers l'Embrunais ou plutôt vers le pays des Écrins. Vous-même, vous souhaitez, le pays des Écrins souhaite englober donc et avoir dans cette future communauté de communes le Guillestroy et le Queyras pour finalement quoi? Parce que vous êtes déjà assez puissant dans le nord du département.
C'est pas une question de puissance, c'est simplement que moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup au pays, à la notion de pays. On travaille ensemble depuis des années. Ça fait des années que le pays briançonnais a des actions de tous ordres. On a créé une charte qui a été signée par l'ensemble des élus du bassin Guillestroy, du Queyras, du Briançonnais et des Écrins. Cette charte, elle a fait quoi finalement en quelques années? Elle a fait que là où les communautés de communes classiques avaient des compétences qui n'étaient pas des compétences convergentes, le pays a fait le lien. Bon, il a fait le lien d'ailleurs dans des secteurs que je le rappelle extrêmement importants. La première étude du pays, la première réalisation du pays, c'était la mise à niveau de tout ce qui relevait de la politique de l'enfance et de la petite enfance dans le pays briançonnais. Les crèches, halte garderie, les crèches entre guillemets de station, le réseau d'aide maternelle. Donc tout cela a été mis en place par le pays. Ensuite, il y a des compétences que personne n'avait dans les différentes COMCOM, que le pays a pris, et qui ont été elles aussi profitables, notamment dans le domaine de l'économie de ces territoires. Donc je me dis que tant d'expériences accumulées fait, à mon avis, que nous avons appris à vivre ensemble. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le Conseil de développement du pays briançonnais, qui regroupe essentiellement les associations et les entreprises de l'ensemble du pays, s'est prononcé favorablement à la transformation du pays en communauté de communes. C'est pas une question de est-ce qu'un tel doit être dedans ou pas dedans, est-ce qu'un tel doit être dehors ou pas dehors. C'est qu'il y a une entité qui s'appelle le pays, qui travaille depuis des années ensemble, et que tout simplement, il me semble que l'expérience accumulée correspond effectivement à quelque chose qui pourrait être une communauté de communes intelligente. Voilà. En plus, je crois que il y a quand même un gros problème qui n'est soulevé par grand monde. J'ai soulevé en commission départementale de coopération intercommunale, mais quelles vont être les conséquences fiscales sur les ménages de ces regroupements de communes? Parce que si on nous dit mariez-les, puis après on ne se préoccupe plus de ces questions-là. Moi, j'ai demandé une étude à l'époque fiscale sur le pays pour savoir où on en est. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on se... C'est un peu technique, j'allais dire, pour les auditeurs, mais si on se marie entre plusieurs communautés de communes, il faut savoir que c'est la somme des compétences de ces communautés de communes, déjà, qui devient la compétence de la future intercommunalité. Donc, clairement, les nettoyages ne sont pas beaucoup possibles. Donc, ce qui veut dire que si vous mariez les gens, c'est la communauté de communes qui a le plus d'intégration fiscale et qui provoque, je dirais, une augmentation de la fiscalité du voisin. Alors, si on marie, entre guillemets, simplement le Kera et le Guillestrois entre eux, on assiste à quelque chose qui est la multiplication par 3,5 de la fiscalité des ménages en Guillestrois. Je ne crois pas que ce soit acceptable. Si on marie l'Embrunet, le Savinois, le Guillestrois et le Kera, on va avoir des phénomènes à peu près comparables, c'est-à-dire une multiplication de la fiscalité des ménages, cette fois des gens de l'Embrunet et du Savinois, par des coefficients multiplicateurs de l'ordre de 3 environ. Je crois que c'est là aussi quelque chose de peu raisonnable. C'est pour ça que bon, on a fait faire une étude fiscale et que les résultats vont être dévoilés dans peu de temps. Et notre but, c'est tout simplement d'utiliser une partie de la dotation complémentaire que nous pourrions obtenir de l'État pour faire en sorte que les effets, les leviers fiscaux soient moins pénalisants pour les communautés de communes qui n'ont, c'est vrai, pas beaucoup intégré de compétences et qui n'ont pas beaucoup d'exercice de ces mêmes compétences, dont fait partie le Guillestrois, parce que les différentes communautés de communes se sont construites avec des intégrations différentes. Le Kera fait partie de ces lieux où l'intégration fiscale est à son maximum, c'est le maximum de toute la région PACA, et c'est parmi les 10-15 premiers au niveau national, donc c'est tout à fait considérable. Et il faut prendre ces choses en compte pour essayer de voir quels sont les scénarios fiscaux qui sont aussi acceptables par les gens. Et puis après, il y a les cohérences. Et les cohérences, moi, je crois qu'elles sont effectivement du côté du pays briançonnais qui regroupe actuellement les quatre communautés de communes, les Crin, Kera, Guillestrois et Briançonnais. Moi, j'aurais été, je dis, très heureux de se voir que se pose la question d'une grande communauté de communes autour du lac de Serre-Fonçon. Je fais partie de ces gens qui pensaient qu'il y avait une cohérence économique à faire en sorte que l'Embrunet, le Savinois, mais aussi le canton de Chorges, puissent se retourner vers le lac. Et éviter peut-être au canton de Chorges d'être simplement une banlieue dortoir de Gap. Voilà, donc toutes ces questions devraient être posées. Moi, ce qui m'ennuie aussi, c'est que les délais qui sont imposés par les textes, c'est-à-dire délibérer avant le 13 juillet, vont faire que les gens vont délibérer, notamment les conseils municipaux, sans savoir quelles sont les conséquences fiscales dans la plupart des temps de leurs choix. Alors bonjour la tête des gens lorsqu'ils vont s'apercevoir que finalement les choix qui ont été faits vont correspondre à la multiplication par 2, par 3, par 4 ou par 5 de la fiscalité des ménages des intercommunalités. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont pas pouvoir supporter ce genre de charges. toutes ces questions auraient dû être portées devant le public et pas seulement entre l'État, une commission et quelques élus qui ont des stratégies de pouvoir. Je crois qu'il faut avoir des stratégies de territoire et pas des stratégies de pouvoir en la matière.
Joël Giraud, vous êtes avec nous dans Parole donnée aujourd'hui sur Radio Alpine Meilleur par l'intermédiaire du téléphone. Hier, vous avez organisé en tant que vice-président de la région, délégué à l'action régionale pour le massif alpin, une journée de rencontre sur le thème des maisons régionales de la santé. Vous étiez à l'Argentière, vous avez été aussi à la Salle des Alpes, et puis dans le Queyras également pour la création d'une maison régionale de la santé. La région doit intervenir, c'est son rôle d'intervenir dans le domaine de la santé.
La région n'a aucune compétence dans le domaine de la santé, c'est vrai. Pour autant, vous savez qu'il a été lancé à la fois un projet national sur les maisons régionales de santé, c'est-à-dire sur la mutualisation des services médicaux à la disposition des habitants, et deux territoires ont déjà passé le crible national de la labellisation, le territoire des Écrins et le territoire du Queyras. Donc la question qui se posait au niveau de la région, c'est va-t-on laisser les collectivités se débrouiller seules avec l'État? Va-t-on les laisser se débrouiller seules avec les conseils généraux lorsqu'ils ont de l'argent et lorsqu'ils veulent rentrer dans ces politiques-là? Eh bien la réponse a été non, et non dès le départ de la campagne. Et Ladislas Polski, qui est le conseiller régional en charge, qui est médecin d'ailleurs, de ces politiques, a mis en place une boîte à outils qui me semble extrêmement intéressante, puisque la boîte à outils, elle permet à la fois d'accompagner les maisons régionales de santé, qui sont, je le rappelle, des établissements de mutualisation où les médecins généralistes peuvent trouver des conditions qui sont des conditions d'installation plus profitables, notamment sur leurs conditions de vie, puisque lorsque vous êtes regroupés, les questions de, j'allais dire, de sacerdoce médical avec un travail de 6 heures à 23 heures et qu'on peut tous les week-ends se posent dans d'autres termes, et vous pouvez également avoir de la formation, accueillir des étudiants en médecine que vous formez, ce qui garantit aussi une certaine pérennité ensuite dans les équipes, parce que parmi les gens qui sont formés, ils restent. Et cette politique donc va à la fois accompagner les maisons de santé nationales, labellisées au niveau national, mais également toutes les initiatives au travers d'un appel à projet qui peuvent avoir lieu sur le territoire des régions les plus reculées et les plus, j'allais dire, les plus appauvries en la matière. Et les régions les plus pauvres en la matière ne sont pas forcément celle que l'on croit. La démographie médicale évolue de telle sorte que, ben, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous étions dans la vallée de la Guisane. La vallée de la Guisane, à l'heure actuelle, est sur une tendance de perdre l'intégralité de ses médecins. Pourtant, nous sommes dans une zone à très haute valeur ajoutée touristique, nous sommes à proximité de Briançon, et pour autant, les médecins en place ont un âge, et leur renouvellement, entre guillemets, n'est pas assuré. Le problème se pose d'ailleurs dans des termes quasiment identiques à Embrun. Embrun, qui a la chance d'avoir un hôpital, mais aussi qui a un nombre considérable de médecins généralistes qui vont disparaître dans les quelques années qui viennent. Nous intervenons au-delà des maisons de santé nationales et labellisées comme telles, sur des territoires qui ont la volonté de mettre ces projets en commun, y compris des projets de télémédecine, de regroupement avec des cabinets de soins infirmiers. Et je crois que, vous voyez, l'avantage quand on est à son domicile avec un téléphone, c'est que vous avez même le chat qui vient vous parler alors que vous êtes au téléphone. Donc si vous écoutez des cris de chat, ne vous inquiétez pas. Et notre idée, c'est donc de couvrir, entre guillemets, le territoire régional et notamment les zones alpines de ces maisons régionales de santé pour agir en amont et ne pas subir, c'est-à-dire ne pas se retrouver dans la situation où on s'est retrouvé ici sur le bassin argentin, où tout allait bien, nous avions suffisamment de médecins, puis du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés sans médecins, non pas pour des questions d'âge ou de démographie, mais de départ assez brutal de certains d'entre eux. Et cette politique, donc, c'est une politique qui est une politique d'accompagnement financier, à la fois, entre guillemets, en ressucé par rapport à ce que fait l'État, mais, comme je vous le disais, en accompagnement complémentaire autour d'environ 150 000 euros sur les créations de maisons de santé qui ne sont pas des maisons de santé labellisées au niveau national. Et la prochaine commission permanente, nous irons plus loin parce qu'il y a par exemple des questions qui se posent d'acquisition foncière à prioriser, et ce que nous allons faire également, de façon à ce que l'enveloppe consacrée à ces opérations soit une enveloppe totalement significative où nous aidions à l'acquisition plus à l'installation de ces maisons de santé sur le territoire. C'est pas le remède miracle, parce que les remèdes miracles n'existent pas. on ne peut pas pallier au niveau régional ce qui est une cata au niveau national. Je rappelle que il y a de moins en moins de médecins sur le marché, mais pour autant, nous pouvons au travers de cela redonner une attractivité à des territoires qui sans ça risquent de la perdre au profit d'un certain nombre de grandes villes où les médecins, je rappelle que la plupart des médecins généralistes qui sortent maintenant des universités sont des femmes, se retrouvent dans des situations de tel isolement dans nos régions qu'elles ne pourraient pas de toute façon s'installer de manière profitable et mener une vie familiale en même temps.
Joël Giraud, parlons du train de nuit Paris-Briançon. On a vu cette semaine au conseil municipal d'Embrun des élus s'inquiéter encore de la pérennité de ce train de nuit. On vous a vu également manifester en gare de Briançon il y a quelques jours. Vous partagez cette inquiétude sur la pérennité de ce train de nuit. On parle aussi beaucoup de travaux et de ce train qui va moins circuler à l'automne prochain. Pourquoi ne pas, par exemple, organiser une manifestation dans toutes les gares le même jour, dans toutes les gares situées entre Briançon et Valence, par exemple?
Écoutez, dans un premier temps, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que au niveau législatif, on a fait en sorte que le train de nuit Paris-Briançon soit un train, entre guillemets, protégé. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il y a un contrat où une somme rondelette de 210 millions d'euros a été débloquée, 25% qui sont des crédits d'État et 75% qui sont des autorisations pour la SNCF d'augmentation de tarifs pour sauver un certain nombre de trains, dont le train de nuit Paris-Briançon, et quelques lignes transversales. Bien. Moi, ce qui me choque le plus, alors, on devrait se dire, à partir de là, bon, ben déjà, sur 3 ans, tout ça est bien, le train est sauvé. Bon, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'effectivement, on soit obligé de faire une manif, comme l'autre jour, en gare de Briançon. Alors, en fait, à Briançon, pourquoi? Parce qu'il y avait le comité de ligne régionale qui s'est déroulé là. Et cette manif a fait que le train a, comme par miracle, réapparu sur les ordinateurs de la SNCF et qu'on peut à nouveau réserver pendant l'été. Parce que le problème était là. Le train existait. Le train était pour autant un train fantôme parce qu'il n'apparaissait plus sur les ordinateurs de la SNCF. Alors, j'avoue que je me perds en conjecture parce que la SNCF a accusé Réseau Ferré de France de ne pas avoir donné les sillons. Réseau Ferré de France a publié des documents que j'ai eu d'ailleurs en main où la SNCF avait fait des commandes partielles, c'est-à-dire n'avait commandé ce train que pour les week-ends. Mais moi je me fiche de savoir si c'est la SNCF ou RFF qui est coupable. D'ailleurs ça pose la question d'avoir séparé l'infrastructure de l'exploitation qui vraiment devient de plus en plus gênant sur des lignes comme les nôtres. Mais de toute façon c'est de l'argent public. Moi, alors l'argent public qu'il aille à RFF, à la SNCF ou à quelqu'un d'autre, je m'en fiche complètement. Ce que je veux c'est que le service soit assuré pour les usagers. Donc ce train sur le papier et sur le plan législatif est protégé et en même temps la façon dont on le fait circuler ou dont on ne le fait pas circuler pose interrogation sur son devenir parce qu'au bout du contrat de 3 ans on a déjà entre guillemets presque mangé un an. Que va-t-on avoir comme bilan? Et si on a un bilan qui nous dit mais finalement il n'a pas été très fréquenté, ben évidemment, nous sommes dans une région touristique, quand quelqu'un vend un séjour, s'il n'arrive pas, la personne dans le séjour, à avoir l'assurance d'avoir sa couchette dans un train, ben, le séjour est perdu, et bien sûr ce client ne reviendra pas sur le train de nuit Paris-Briançon. Donc, quelle est la part de la politique de SAP de la part de la direction générale de la SNCF? Quelle est la part de l'incompétence? C'est une question que je pose, parce que j'ai eu un sentiment, je ne suis pas le seul l'autre jour à Briançon, on a plus eu un sentiment d'incompétence que d'autre chose au niveau des cadres de cette entreprise pourtant fleuron. Nous ne sommes pas le seul train visé, puisque je rappelle que sur les trains de nuit, pratiquement aucun n'était en réservation pour cet été. Donc les manifestations briançonnaises ont finalement servi à tout le monde, puisque le mercredi suivant, il n'y avait pas que le Paris-Briançon qui était en ligne, il y avait également le Paris-Tarbes, en fait, tous ces trains qui irriguent les zones les plus éloignées de notre territoire. Je pense, moi je vais commencer par jouer le dialogue avec la direction générale qui a été mise en place au niveau de la SNCF. Je pense aussi que, très honnêtement, c'est l'État qui est défaillant. Pourquoi? Quand les TER ne fonctionnent pas...
En une minute, Joël Giraud.
Une minute. Quand les trains régionaux ne fonctionnent pas, vous savez qu'il faut engueuler le conseil régional. Donc tout le monde a compris que c'était l'autorité organisatrice de ces trains régionaux. Et Dieu sait qu'on se fait engueuler. Même quand on met en place des politiques comme pour la rentrée prochaine avec la gratuité pour les étudiants et les apprentis sur un certain nombre de trajets. En revanche, quand ce train est organisé par l'État, ce qui est le cas du train Paris-Briançon, on n'arrive pas à savoir qui à l'État, au niveau, par exemple, de la direction régionale de la DREAL de la région française de Côte d'Azur, qui est responsable de la mise en place de l'organisation de ce train. Et je crois que c'est là aussi le problème. On a créé des trains qui sont sous l'autorité de l'État, mais il n'y a pas de pilote au niveau de l'État. Donc moi, je vais m'employer avec un certain nombre de mes collègues parlementaires concernés par ce sujet à faire en sorte que l'État joue son rôle, et quand on doit faire circuler un train, mais tout simplement, on passe la commande suffisamment à l'avance. Je crois que c'est un combat qui nous permettra de conserver le Paris-Briançon dans les années qui viennent.
Joël Giraud, vous commémorez aujourd'hui l'appel du 18 juin?
Oui, tout à fait, comme dans toutes les communes. Je pense que de temps en temps, il n'est pas inutile de se rappeler que dans des périodes troublées, des périodes difficiles pour la nation, des voix se sont levées et que ces voix peuvent servir d'exemple aujourd'hui, à un moment où la société devient de plus en plus délitée et où ce qui se passe au niveau national devient de plus en plus un drame, tout simplement pour l'équilibre de la société et l'équilibre des territoires.
Merci Joël Giraud.
Merci à vous.